Allez, les midis, c'est reparti. À 13h, je recevrai le metteur en scène de La Cage aux Folles, Olivier Py. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier qui vient cette fois-ci pour le Point Culture.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les bâtiments contemporains sont-ils plus fragiles que les bâtiments anciens? Les chantiers de restauration de bâtiments récents se multiplient. On pense à Beaubourg, par exemple, à l'Opéra Bastille ou encore à la Villette. Alors, dans Le Monde, on apprend que les pouvoirs publics vont dépenser ainsi près de 5 milliards d'euros d'ici 10 ans pour les rénovations. Rien qu'en Île-de-France, l'obsolescence des bâtiments contemporains, c'est le dossier du Point Culture du jour. Mathias Gervais de Lafond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Alors, comment expliquez-vous que des bâtiments récents, comme ceux de la Villette par exemple, je crois qu'il a été inauguré en 1986, nécessitent déjà des restaurations avec des coûts astronomiques? On parle quand même d'un milliard d'euros. Est-ce que, selon vous, c'est un défaut de conception initiale, de choix de matériaux, ou plutôt un symptôme structurel de l'architecture contemporaine?
L'impression d'une obsolescence accrue des bâtiments modernes à laquelle vous faites référence, je pense qu'elle a absolument besoin d'être nuancée et expliquée avec des facteurs qui sont à la fois constructifs, technologiques, mais aussi culturels. En fait, l'obsolescence, elle est plurielle. Donc, bien sûr, il y a l'obsolescence technique et technologique, qui est la plus facile à comprendre. C'est la nature même de ces grands équipements auxquels vous faites référence, que ce soit la Cité des Sciences, que ce soit Beaubourg. Mais c'est des bâtiments qui, lors de la construction, lors de leur construction, on a privilégié des choix constructifs complexes. Donc ça concerne leur enveloppe, leurs matériaux de structure qui sont en verre, qui sont des façades légères, etc. Et donc c'est des matériaux qui, effectivement, qui sont moins tolérants à l'usure que la pierre massive, par exemple. Donc il y a une maintenance et des réparations qui sont intrinsèquement plus complexes.
Mais vous voulez dire qu'on le savait au départ ?
Je pense que surtout on s'en préoccupait moins. C'est-à-dire qu'on avait aussi un rapport, dans ces époques-là, on avait un rapport avec la valeur de la ressource qui n'était pas la même. Et surtout, en fait, vous mettez en avant, en fait, un autre point qui est une obsolescence aussi normative. C'est que finalement, le cadre, en fait, dans lequel on a construit ces bâtiments était beaucoup plus souple ou beaucoup moins exigeant par rapport aux performances que devaient atteindre ces bâtiments. Donc aujourd'hui, on a considérablement réévalué les objectifs normatifs de ces bâtiments. Et donc l'obsolescence dont vous parlez, elle est plus normative et sociétale que physique.
D'accord, en fait, on rénove pour mettre aux normes. On a eu des nouvelles normes entre-temps, et donc il faut que le bâtiment soit rénové pour être aux normes d'aujourd'hui.
Exactement, ça veut dire qu'une énorme partie des budgets dont vous parlez, ils sont affectés à améliorer la performance énergétique, que ce soit l'isolation, le chauffage, la ventilation. Ça peut être aussi l'accessibilité à un public beaucoup plus large, à des personnes à mobilité réduite. Ça peut être aussi une augmentation des règles de sécurité. Et puis, aussi, c'est des bâtiments qui sont soumis à un accompagnement technologique de par leur programme complexe. Donc, c'est des bâtiments qui ont des escalators, des réseaux informatiques compliqués, etc. Donc déjà, ça, ces équipements-là, ils ont une obsolescence beaucoup plus rapide. Un bâtiment qui n'est pas assisté par la technologie, un bâtiment en pierre, une cathédrale, un château, enfin, ou même un hôtel particulier du 18e, il n'est pas soumis à l'obsolescence de ces équipements qui maintiennent en vie, littéralement, ces grands bâtiments. Ils sont assistés par cette technologie.
Mais quand on lit que ça coûterait moins cher de raser et de reconstruire que de restaurer, est-ce que ça pose quand même question, Mathias Gervais-Lafond?
Alors, pour moi, vous mettez cette question que vous posez, c'est la plus importante. Cette question, elle est très positive dans le sens où le vouloir entretenir un bâtiment, c'est y voir un objet de patrimoine. Mmh. C'est voir dans ce bâtiment la promesse de quelque chose qui a du sens. Et c'est pour moi la plus belle, en fait, le plus bel engagement collectif, se dire, OK, ce bâtiment, il fait sens encore aujourd'hui. Donc, on va collectivement faire un effort, qui est l'effort de son entretien, pour le maintenir en activité. Le bâtiment des halles, par exemple, vous savez, il y a eu cette grande opération dans le centre de Paris, le bâtiment qui a été démoli, il aurait pu être mis en conformité, mis en norme, adapté. On a préféré le raser parce que il y avait un déficit de signification. Il y avait une obsolescence de signification avant même, encore une fois, cette obsolescence physique. Donc l'engagement, investir dans un bâtiment, en réalité, c'est une promesse de pérennité, et surtout, c'est une reconnaissance de signification du bâtiment, aussi une forme d'accomplissement du bâtiment.
Alors, je l'ai dit, hein, vous êtes architecte. Quand vous concevez aujourd'hui un bâtiment, est-ce que vous pensez à des critères concrets pour limiter justement son obsolescence programmée à venir? Sur quels critères vous vous basez aujourd'hui pour éviter peut-être ces grands chantiers de restauration qui coûtent si cher?
Oui, alors, moi je pense que vous posez exactement la bonne question. Ça veut dire comment, aujourd'hui, en fait, on hérite de ces bâtiments qui ont été conçus avec des réflexions et des enjeux qui sont différents. Donc aujourd'hui, on hérite de leur entretien, mais comment nous, concepteurs d'architecture, on peut anticiper le parc, entre guillemets, immobilier qu'on veut léguer aux générations futures. Donc c'est même aujourd'hui, c'est la question la plus importante pour les concepteurs d'architecture contemporains. Comment, en fait, il y a aujourd'hui un changement de posture et comment on intègre des défis environnementaux, des évolutions de société dans ce qu'on conçoit.
Et vous pouvez nous donner des exemples concrets, par exemple, de nouveaux critères que vous prenez en compte ?
Absolument. Donc ça va passer, par exemple, par, je vais même vous citer des bâtiments récents, hein, mais ça va passer, en tout cas, déjà théoriquement, ça passe par l'intégration dans la conception de nouveaux concepts, de nouvelles attentions à la démontabilité du bâtiment, à sa réversibilité, au fait d'être moins dépendant à des technologies éphémères. Tout ce qui va, en fait, on va essayer de contourner ce qui pourrait être la cause d'une obsolescence accélérée. Donc, pour vous citer quelques exemples, des bâtiments même connus, en fait, des bâtiments, par exemple, qui ont reçu un des prix nationaux les plus prestigieux d'architecture, qui s'appelle l'Équerre d'Argent. En 2020, il y a une résidence de 192 logements qui a été construit par les architectes Brüter et Baukunst, qui contient un parking, et ce parking, il a été pensé pour être réversible. C'est-à-dire que le parking, il pourra devenir du logement. Mmh. En réalité, ça nécessite une complexité de conception énorme, puisqu'il faut que les canalisations, les trams, les réseaux, enfin tout soit prêt le jour où on décidera de laisser moins de place à la voiture. Mais le bâtiment pourra l'accueillir.
Quand je vous écoute, Mathias Gervais de Lafond, j'ai quand même l'impression que ce qu'on appelait avant l'architecture iconique, ces grands architectes qui voulaient faire un geste architectural, finalement, une pensée plus durable a pris le pas sur ces grands gestes-là.
Oui, mais vous savez, en fait, c'est les architectures auxquelles vous pensez, en fait, c'est les architectures souvent qui sont les plus perceptibles. Mais cette pensée, on va dire, intégrative de l'architecture, enfin, je sais pas comment dire, cette pensée où l'architecture, elle participe à une pensée collective sur du long terme, elle existait déjà. Même, par exemple, Auguste Perret, qui est aussi une des figures de l'architecture moderne, enfin, encore un petit peu avant, puisqu'il a commencé à construire des bâtiments en béton au tout début du XXe siècle dans Paris. Dans son petit traité, il défend déjà de dissocier ce qui a vocation à durer dans un bâtiment et ce qui a vocation à être renouvelé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser à un bâtiment comme un objet qui a plusieurs couches, plusieurs strates, et il faut savoir qu'est-ce qui va devoir rester et qu'est-ce qui va devoir être remplacé, et faciliter le remplacement de ce qui doit être remplacé.
Eh bien, merci beaucoup de tous ces éclaircissements, Mathias Gervais de Lafond. Merci.
Dans le reste de l'actualité, Marie, on apprend qu'à Versailles, un carnet d'esquisses du peintre Jacques-Louis David avait été volé par les Allemands pendant l'occupation.
Oui, révélé par la cellule d'investigation de Radio France, cette affaire témoigne du travail nécessaire concernant la recherche de provenance des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit ici d'un carnet de croquis utilisé par le peintre David pour préparer sa toile du Serment du Jeu de Paume. Dans les collections du château de Versailles depuis plusieurs décennies, sa provenance n'avait jamais été vérifiée. Après une alerte d'un des descendants, la cellule d'investigation de Radio France a retracé l'origine de ce carnet. Volé en 1940, il fut vendu aux enchères à Munich en 1943, avant d'être acheté en 1951 par le château de Versailles à un marchand allemand réputé. L'une des filles du propriétaire avait pourtant prévenu dès 1945 l'organisme chargé des restitutions des biens volés de cette disparition. 80 ans plus tard, elle obtient enfin réparation du préjudice subi par sa famille.
Et pour finir, Marie, le roman d'une Française figure dans la liste du New York Times des 100 livres remarquables en 2025.
Oui, il s'agit du livre Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albus, paru chez Gallimard en 2023 et sorti en poche cette année. Deuxième roman de l'écrivaine réunionnaise Gaëlle Bellem, cet ouvrage narre la vie d'Edmond Albus, un ancien esclave qui a découvert au XVIe siècle comment produire la gousse de vanille. Alors, il était passé plutôt inaperçu en France, mais le livre a été traduit il y a quelques mois en anglais. Interrogé par la chaîne Première, Gaëlle Bellem, donc l'autrice, a réagi à cette distinction en citant Aimé Césaire, je le cite à mon tour, « Ma bouche sera la bouche des malheurs de ceux qui n'ont point de bouche ».
Merci, oui c'est très beau. Merci Marie, bonnes vacances. Ce sera Sophie Catherine Galet qui vous remplacera le reste de cette semaine et rendez-vous demain pour le reste de nouvelles actualités.
Bien sûr, et nous on se voit lundi.
On se voit lundi, bonnes vacances, je vous déteste.
Merci.
Allez, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.